Aujourd'hui sur Radio Pays d'Hérault, la suite de nos émissions spéciales sur la bande dessinée locale, un entretien riche et passionnant en compagnie de Jean-Christophe Lopez, dessinateur et éditeur chez les maisons d'édition Six Pieds Sous Terre ainsi qu'Alter Comics, établi à Saint-Jean-de-Védas, Montpellier, maison d'édition proposant depuis plus de 30 ans de la BD alternative ainsi que du roman graphique. Aujourd'hui, notre sujet portera avec lui sur son parcours, sur la création des différentes éditions, ses motivations, ce qu'implique le métier, l'évolution de l'édition en France, ainsi que les différents ateliers qu'il anime depuis quelques années dans le département. Jean-Christophe Lopez, vous êtes le cofondateur des éditions Six Pieds Sous Terre, dont le siège se trouve à Montpellier, plus précisément Saint-Jean-de-Védas, qui a vu le jour dans les années 90 avec notamment le fanzine Jade, en compagnie de Jean-Philippe Garçon, Jérôme Sier, Thierry Durand ainsi qu'Yves Jomain. En plus de 30 ans d'existence, la maison d'édition indépendante a édité énormément d'œuvres et d'auteurs reconnus, comme par exemple Fab Caro, Edmond Baudouin ou Terreur Graphique, entre autres, et continue encore et toujours ses activités aujourd'hui. Aussi, au début des années 2010, avec l'essor du numérique, vous fondez une autre maison d'édition qui s'appelle Alter Comics, spécialisée donc dans la publication de bandes dessinées numériques. Donc aujourd'hui, ça nous fait plaisir à Radio Pays d'Hérault de vous recevoir en interview. Je voulais vous demander quel a été un peu votre parcours qui vous a mené à ce monde de la bande dessinée et notamment aussi le métier d'éditeur.
Alors, vous avez un petit peu de temps ? Non, je rigole. Alors moi, c'est très simple. En fin de compte, c'est un peu un accident. À la base, je suis dessinateur de bande dessinée. Mon parcours était plutôt tracé de ce côté-là. On a démarré comme dans les années 2000, hein, toutes les maisons d'édition indépendantes, hein, ont démarré sur un terreau qui était de jeunes auteurs qui n'arrivaient pas à se faire publier chez les éditeurs classiques et qui ont décidé de prendre un peu leur destin en main et de fonder des associations, des maisons d'édition, des choses comme ça. Donc nous, ça a démarré avec un fanzine qui s'appelait Jade et qui a connu quelques numéros en fanzine. De ce fanzine est né à la fois la maison d'édition, Six Pieds Sous Terre, mais aussi le magazine Jade. Parce que il y a eu avant le magazine, donc le fanzine, mais après on a décidé de partir dans une aventure assez folle qui était d'être en kiosque avec un magazine indépendant de bande dessinée qui voulait être le reflet de ce qui se passait avec les éditeurs comme l'association Ego Comics, Les Requins Marteaux, etc., qui publiaient effectivement ce qu'on va appeler plus tard le roman graphique. À partir du magazine Jade, a découlé bien sûr la maison d'édition Six Pieds Sous Terre et nous avons démarré, je pense 2 ans après, les premiers albums de bande dessinée, dont un qui avait été remarqué, qui s'appelait Plageman, de Guillaume Bouzard. Et donc, à partir de là, la maison d'édition a pris, je dirais, son envol. La presse s'est arrêtée parce que c'est très, très dur de pouvoir vivre de la presse. On a quand même initié 23 numéros, ce qui n'est pas rien, reconnu par la profession, par les auteurs, puisqu'on a publié plus de 80 auteurs pendant cette période-là. On a continué effectivement avec la maison d'édition à publier une revue plus en destination des professionnels, qui s'appelait toujours Jade, la revue, et qui a continué avec pas mal de numéros aussi. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. La bande dessinée évolue effectivement avec ces nouvelles maisons d'édition. Des succès sont arrivés. L'association avec Marjane Satrapi et Persepolis, Ego Comics avec Fabrice Snow, Les Requins Marteaux avec Winchlous, pareil, nous avec Fab Caro ou Gilles Rochier. Voilà, donc tout le monde a eu un petit peu, un coup de projecteur. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est-à-dire que les grosses maisons d'édition ont commencé à regarder ce qu'on faisait et ont commencé à faire un peu la même chose. Six Pieds Sous Terre a été, par exemple, le premier éditeur à faire des adaptations littéraires, Maintenant, vous allez me dire, c'est banal, mais à l'époque, c'était très osé. Les grosses maisons d'édition se sont faites sur le terrain du roman graphique, et maintenant, effectivement, le marché est très concurrentiel sur ça. Donc voilà un petit peu en gros, et puis bien sûr, moi, j'ai continué toujours à faire du dessin, pour parler un petit peu de moi, et de faire des... En fin de compte, je fais des ateliers de bande dessinée pour les enfants. Et je parcours un petit peu le département, voire quelquefois je suis aussi invité sur Paris. Donc voilà, j'ai continué par contre, si vous voulez que je continue un petit peu sur une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Alter Comics, qui avait pour vocation de faire de la création de bandes dessinées numériques. Là, on était un petit peu trop en avance sur notre temps. Aujourd'hui, la bande dessinée numérique a du mal à s'implanter. Comme la littérature est un petit peu plus présente en numérique, mais la bande dessinée, c'est un petit peu plus difficile. Le seul succès réel, aujourd'hui, il y a eu un succès d'estime quand même, c'est Comixology aux États-Unis avec les comics de Marvel et toute la bande, qui a eu beaucoup, beaucoup d'abonnés. Je crois que ça a stagné un petit peu, mais un retour au papier sur le comics. Aujourd'hui, ce qui, on va dire, dans le numérique fonctionne en bande dessinée, c'est ce qu'on appelle les webtoons. Et effectivement, c'est quelque chose qui vient de la Corée du Sud, et qui est très très implanté chez eux depuis pas mal d'années, avec des ventes qui avoisinent des millions d'exemplaires. On a reproduit un petit peu ça, et il y a eu beaucoup d'auteurs français qui se sont lancés aussi dans le webtoon. Ça, c'est très intéressant.
Justement, alors il y a deux points qui m'intéressent dans ce que vous venez de raconter. C'était notamment pourquoi à l'époque c'était osé, par exemple, de faire des reprises littéraires en bande dessinée. Et ensuite, est-ce que vous pourriez me parler un peu de Alter Comics et justement qu'est-ce qui a déclenché l'initiative de fonder cette maison d'édition dédiée vraiment au numérique et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce format?
Alors, pour la première, en fin de compte, pourquoi c'est osé de faire des adaptations littéraires? Parce que faut se remettre un peu dans le contexte. À l'époque, les éditeurs de bande dessinée étaient focalisés sur la jeunesse et sur les séries. Nous, on arrive un petit peu avec notre roman graphique, on décide que l'album de bande dessinée fera pas 44 ou 46 pages, mais fera 100, 150, 80. Donc ça, déjà, ça a bousculé un petit peu. Et puis, comment penser que la bande dessinée soit pour les adultes? Et donc, effectivement, de se dire, aujourd'hui, on va adapter Macbeth de Shakespeare en bande dessinée, c'est improbable. Dire qu'on va mettre à l'honneur un magnifique écrivain qui s'appelle Louis-Ferdinand Ramuse, qui est un écrivain suisse avec l'histoire du soldat en bande dessinée, pas possible. Après, on a eu des choses qui étaient un petit peu plus, je dirais, dans les cordes. On a fait les adaptations de Poulpe en bande dessinée. Le roman policier. Donc tout ça n'existait pas. Donc effectivement, ils se sont aperçus que le médium de la bande dessinée pouvait très bien parler à plusieurs générations. Moi, je suis de la génération des fumetti, c'est-à-dire la génération qu'on trouvait en kiosque, des petits formats, et qu'on achetait et qu'on lisait. Donc c'est ce parcours-là de cette bande dessinée qui était plutôt axée jeunesse et après pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui avec les romans graphiques, les adaptations. On peut avoir des adaptations littéraires, mais ça peut être aussi des adaptations de films, etc., etc. Donc c'est pas du tout dans l'air du temps. Et aujourd'hui on voit que ça peut être des gros succès de faire ce genre de choses. Concernant Alter Comics, en fin de compte, j'ai parcouru pas mal de pays dans le monde. J'ai été très touché du fait que c'était très très compliqué l'accès à la culture dans certains pays et à la lecture surtout. Et le seul moyen de donner accès à cette lecture-là, c'était le numérique. Le papier, c'était impensable et c'était hors de prix. Mais donc, par le numérique, on pouvait, à travers des téléphones portables ou des ordinateurs, bah effectivement, mettre de la bande dessinée numérique, bien sûr des romans, etc., etc. Et donc c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé de lancer Alter Comics Et quand j'ai démarré ça, on l'a fait en plusieurs langues, en quatre langues, en français, en anglais, en espagnol et en coréen, puisque le seul pays au monde qui était 100% numérique, qui n'avait plus de papier, c'était la Corée. Donc effectivement, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment je pouvais adresser de la lecture en bande dessinée et avec le numérique pour ça. Alors on a essuyé tous les plâtres, hein. J'imaginais comment on peut lire une bande dessinée, c'était très très compliqué, il y avait des petits écrans, tout ce qu'on peut imaginer pendant plus de 10 ans. Depuis un peu moins d'un an, j'ai repris Alter Comics, mais on a arrêté le numérique et on s'est remis au papier. Et avec des publications un peu différentes, des fumetti, donc la bande dessinée italienne, et des adaptations de webtoon en papier.
Oui, et puis je crois aussi que vous n'éditez pas que de la bande dessinée avec Alter Comics. Je crois qu'il y a aussi une histoire de revue ou de science. En me renseignant un peu, je crois, je ne sais plus très bien.
Effectivement, on ne fait pas que de la bande dessinée, on fait aussi du texte, et on a deux autres axes qui sont les sciences humaines, où effectivement on a quelques titres sur des thématiques bien définies. L'idée, c'est de faire quelque chose de vulgarisé, mais qui peut servir aussi aux universitaires. Et puis surtout, on a lancé une collection de polars. Et donc c'est ça aujourd'hui qui fonctionne, je dirais, à plein régime, puisqu'on a repris la série du Poulpe avec une nouvelle série qui s'appelle La fille du Poulpe.
Comme ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu-là, qu'est-ce qu'implique le travail vraiment d'un éditeur et comment bah, vous travaillez avec les auteurs, peut-être la distribution, je ne sais pas comment ça se passe, si vous avez aussi un regard à ce niveau-là, mais comment ça se passe?
Alors, dans une maison d'édition, le nerf de la guerre, c'est la diffusion. En fin de compte, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas un bon diffuseur. Et ça, c'est très compliqué d'avoir un bon diffuseur, parce que ben, les bons diffuseurs, ils n'attendent pas un nouvel éditeur pour les diffuser. Donc ça, c'est la première étape. Quand vous avez un bon diffuseur, vous allez pouvoir commencer à faire le plus intéressant, c'est-à-dire à faire des collections, des choses qui vous intéressent, et à contacter les auteurs. Là, c'est pareil. C'est très différent sur un projet de bande dessinée par rapport à un projet de roman ou de polar. Par exemple, on vient d'éditer une jeune autrice de bande dessinée qui s'appelle Lola Chen sur ce qu'on appelle l'itinéraire d'une aide-soignante. C'est une bande dessinée sur ces histoires d'aide-soignante en EHPAD. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'essence même de la bande dessinée, c'est la narration par l'image. Et effectivement, cette fille écrivait très bien. Et elle a pu, effectivement, en bande dessinée avec. Alors là, on fait son travail d'éditeur, c'est-à-dire quand c'est un jeune auteur, pas des auteurs confirmés, bien sûr, mais quand c'est un jeune auteur, on va effectivement l'accompagner sur tout au long de la bande dessinée. Il y a toujours cette présence avec l'auteur qui est très forte et cet échange qu'il faut avoir. Par exemple, quand on a fait les adaptations de Webtoon récemment, il a fallu adapter entièrement le Webtoon à du papier, ce qui n'est pas simple. Il a fallu créer des planches. Donc c'est un travail qui nécessite de retravailler le storyboard. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de retravailler la narration par l'image. Donc c'est assez intéressant tout ça. C'est très très intéressant. Et c'est ça qui nous aime, qui nous plaît dans l'édition, c'est de pouvoir créer les ouvrages. Et avec les écrivains, c'est totalement différent.
Abordé ça un peu aussi tout à l'heure et un peu par les réponses que vous me donnez. Quel est maintenant votre point de vue un peu sur le monde de l'édition en France et selon vous, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes dans ce monde-là?
La première chose qui a changé, qui a impacté, c'est l'arrivée du manga. Il faut savoir que le manga est arrivé il y a pas mal d'années déjà, avec les éditions Glénat, qui avaient publié les premiers mangas qui n'avaient rien à voir avec ce que vous connaissez, hein, qui était un grand format, souple. Je crois que les premiers étaient vendus en kiosque. Donc bien sûr, en version française, c'est-à-dire dans le bon sens. Et puis est arrivé le manga qui, dans la bande dessinée, a impacté énormément. Aujourd'hui, quasiment la moitié du marché de vente de bande dessinée, c'est du manga. Donc ça, quand même, on se resitue aux années 2000, 2010, c'était pas prévu, comme on dit. Le comics américain a décliné, c'est-à-dire qu'il a été très très présent à mon époque, avec Strange, Titan, Special Strange, Nova, etc. Il est retombé, puis il est revenu. Il est revenu aujourd'hui, puisqu'il a un vrai public, avec bien sûr le cinéma, qui a remis tout ça au goût du jour, et les jeunes se sont réaccaparés les personnages. Donc ce monde a un peu changé. Et puis est arrivée une nouvelle catégorie, le roman graphique, c'est-à-dire nous, ce qu'on savait faire. Ce que les autres faisaient pas. Il y avait le franco-belge qui avait une présence omniprésente. Et puis est arrivé le roman graphique, le manga, le comics américain. Donc tout ça, ça redéfinit un petit peu le marché de l'édition. Et il faut essayer de naviguer là-dedans. C'est pas simple. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit du comics, du manga, de la bande dessinée, du roman graphique, si le texte est bon, si le scénario est bon, ça fonctionne. Parce que c'est juste une présentation, tout ce que je viens de dire. Hein, on revient à la bande dessinée, c'est la narration par l'image, que ce soit pour le manga, pour le comics, ou pour le roman graphique, ou pour le franco-belge. Mais ça va être défini par ce que vous allez raconter. Il n'y a pas de sujet et il n'y a pas de peur à avoir. On peut autant faire telle chose ou telle chose. Par contre, chez l'éditeur, on a besoin d'avoir une image, une identité, et d'essayer de présenter, par exemple, chez Ses Pieds sous terre, on sait notre image qu'on a, et on sait qu'on fait du roman graphique. Donc on sera jamais sur du comics américain ou du franco-belge. C'est ça qui a redéfini un petit peu le sujet. C'est pour ça que les gros éditeurs de bande dessinée, toute la segmentation que je viens de vous parler, ben, eux, ils l'ont internalisé chez eux. Glénat, ils font du manga, Glénat, ils font du roman graphique, Glénat, ils font du franco-belge, vous le savez, etc., etc. Faut pas oublier que One Piece, c'est Glénat. Hein.
Oui, c'est vrai.
Eh oui, faut pas oublier.
C'était aussi à l'époque où ça avait débarqué. Vous en parlez justement un peu avant, quand c'était vendu en kiosque et au format français. C'était d'abord Akira surtout. Puis
C'était
ça,
Akira, tout à fait,
à
tout à
partir
fait.
de là, c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Mais bon, comme vous dites, au final, tout ça, c'est qu'une histoire de format. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors, peut-être définir un peu la différence entre bande dessinée et roman graphique, parce que j'ai souvent personnellement l'impression que la frontière est assez floue entre les deux.
Alors, roman graphique, souvent les gens sont un peu perdus par cette appellation. Est-ce que c'est des textes avec du dessin? Est-ce que c'est du dessin avec du texte? Est-ce que c'est de la bande dessinée sans cases, etc., etc. En fin de compte, c'est tout ça à la fois. Et c'est pour ça que cette grande liberté dans le roman graphique ne se retrouve pas dans d'autres segments. Par exemple, quand vous faites du franco-belge, ça va être très très quadrillé avec une planche à tel format, voyez, avec des telles ou telles cases. Ça peut être segmenté en deux parties dans la planche, etc., etc. C'est très classique, on va dire. Mais tout ça, c'est de la bande dessinée en fin de compte. Le roman graphique, souvent, j'ai entendu des gens qui me disaient, oui, mais moi, je préfère la bande dessinée parce que le roman graphique, c'est du texte avec une illustration. Je dis, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Le texte illustré, c'est encore un autre domaine, hein, qui n'a rien à voir, qui est plutôt le domaine de la littérature, alors que le roman graphique, par exemple, chez nous, l'inventeur du roman graphique en France, moi je dirais que c'est notre pape à nous, c'est Edmond Baudouin. Il a réussi à faire ce que personne ne sait faire. C'est-à-dire que dans ce qui va. Vous avez le dernier titre, une réédition, hein, je ne sais pas si vous avez vu chez Ses Pieds sous terre, qui est le titre 1 de la Côte Bleue. Alors là, les gens vont pas comprendre. C'est des grandes images avec du texte. Des fois, il y a de la bande dessinée au milieu. Puis des fois, on revient sur de l'illustration. Des fois, il n'y a pas de texte. Il y a juste à voyager avec ce train. C'est cette liberté, en fin de compte, le roman graphique, qui permet effectivement d'avoir d'autres choses. Mais vous prenez par exemple Fab Caro. La Fab Caro, c'est très structuré. C'est presque éloigné du roman graphique. C'est presque du franco-belge. C'est très très écrit, très structuré, très cadré. C'est pour ça que le roman graphique a cette liberté-là.
revenir un peu sur ce que vous faites aussi dans votre métier, enfin on va dire un peu à côté. Donc vous animez parfois des ateliers de bande dessinée avec des enfants, d'autres types de personnes. J'étais curieux de savoir si vous en faisiez toujours, si vous aviez des actualités à ce sujet et comment vous orientez vos ateliers un peu.
Alors ça, ces ateliers, c'est une drôle d'histoire. Je quitte une grande entreprise de service public. Et pour me lancer, quelqu'un me demande « Tiens, toi qui suis dans la bande dessinée, pourquoi tu ferais pas des ateliers ?» J'ai dit « Parce que je sais pas ce que c'est. »« Ouais, mais tu voudrais pas plancher dessus. » Donc du coup, je t'ai obligé de réfléchir à comment on pourrait animer un atelier de bande dessinée. Et donc j'ai créé ce qu'on appelle une mallette pédagogique qui, quasiment dans l'année, a été labellisé par la DRAC et validé par le ministère de la Culture. Donc du coup, je suis référent DRAC, mais surtout, cette mallette a montré qu'effectivement, avec ça, on pouvait aller partout. J'ai commencé par faire des ateliers pour des publics empêchés. Empêchés, ça veut dire empêchés de liberté. Donc pendant 5 ans, j'ai fait des prisons de l'Occitanie, on va dire. Et j'ai rencontré les détenus dans tous les quartiers. Que ce soit les quartiers adultes, quartiers des jeunes, quartiers des femmes. Et avec cet atelier, je leur ai fait faire de la bande dessinée. Personne n'a mis 1 euro là-dessus. Et non, ça ne marchera jamais. Ça a marché pendant 5 ans. J'ai publié des albums qui s'appellent Mine de plomb, où il y avait les détenus et leur bande dessinée qui était à l'intérieur. Ça s'est arrêté parce qu'ils ont arrêté, ils voulaient plus faire rentrer la culture en prison. Donc ça s'est arrêté. C'est étonnant pour un gars de gauche, mais bon, c'est comme ça. Après, j'ai été sollicité par 2 fois. La 2e fois pour une maison de retraite. Pareil, on s'est dit, mais jamais vous allez arriver à faire de la bande dessinée avec les seniors, on appelle ça maintenant. Et des seniors quand même âgés. Hein. Et bien, ça a fonctionné extraordinairement bien. On a fait une belle exposition, on a fait des photos. Ça a été extraordinaire. Ça se passait dans la région du côté d'Agnan. Et il y avait une très belle maison de retraite. Et les anciens étaient vraiment assidus à la fin. Très difficile au début, très assidus à la fin. Et puis, ça fait plus de 8 ans que je fais des ateliers. Ça, c'est le plus difficile pour les enfants malades. Alors, ils n'ont pas des entorses, hein, les enfants. Hein. C'est des enfants malades. Et je leur amène l'espace d'une demi-journée, une petite lumière en dehors de leur chambre et de leur maladie. Donc ça s'appelle Papier Bulle. Pareil, il y a eu plusieurs éditions. On a un Instagram, etc., etc. Et pour vous dire qu'effectivement, je continue toujours mes ateliers puisque j'ai repris en 2025 une saison supplémentaire avec eux. Et donc, je me déplace au CHU de la Péronie pour faire ces ateliers. Et ça fonctionne très bien. C'est toujours surprenant de voir les enfants faire ça. Après, je peux être sollicité. J'étais sollicité pendant 3 ans par le département pour naviguer dans toutes les bibliothèques et toutes les médiathèques du département. C'était très intéressant puisque j'ai pu rencontrer tout un tas d'enfants et de parents passionnés par le dessin et qui venaient vraiment... On le voit avec grand plaisir faire de la bande dessinée. Donc voilà, je continue. Alors je suis sollicité, parce que je suis un petit peu dans le circuit, donc je suis sollicité régulièrement. J'essaye au maximum de le faire, parce que ça reste important pour les enfants de pouvoir montrer qu'ils sont capables de faire des choses, en fin de compte. Parce que souvent les parents, c'est rigolo, quand ils viennent à la fin de l'atelier, quand ils viennent me voir, ils disent « Oh là là, c'est bien ce que vous avez fait pour mon enfant. » Ouais, finalement, moi, j'ai rien fait. Hein. Je dis, mais c'est pas vous qui avez dessiné. Ben, je dis non, c'est le petit qui a dessiné, c'est la petite. Ben, c'est pas moi. Donc, c'est pour vous dire que cette transfert d'énergie qu'on peut donner sur l'enfant pour que lui puisse, à son tour, mettre tout ce qu'il peut, et il se rend pas compte, parce qu'en fin de compte, dessiner, c'est comme marcher, parler, c'est inné. Pablo, vous savez dessiner. Si un collègue à côté de vous, elle sait ou il sait dessiner. Tout le monde sait dessiner. C'est comme parler et marcher. Mais par contre, personne ne le pratique. Et ouais. C'est là où on voit dans ces ateliers que cette pratique-là rend incroyablement heureux les gens. Quand j'étais en tôle, Les détenus, ils n'en revenaient pas. Ils disaient, mais c'est moi qui ai fait ça. Et c'est pas moi, t'as bien vu, c'est pas moi qui l'ai fait. Parce que c'est inné. Voilà. On sait tous dessiner. Il faut juste s'y mettre. C'est une pratique. Et moi, je mets juste cette énergie pour donner aux gens qui viennent à l'atelier cette volonté de le pratiquer. C'est tout.
Oui, voilà, finalement, vous les accompagnez et finalement, c'est un peu comme quand on était petit avec le vélo, quoi. Au bout d'un moment, vous
C'est ça.
lâchez un peu et finalement, ils
Ouais.
partent tout seuls. Oui.
On enlève les roues et ils partent. On enlève les roues et ils partent tout seuls. Alors l'avantage du... Alors je fais aussi des adultes, hein, parce que dans les ateliers, il y a des adultes qui viennent. Et c'est rigolo parce que l'enfant, il n'a pas peur de la feuille blanche. L'adulte a beaucoup, a énormément peur de la feuille blanche. L'enfant, il n'a pas cette contrainte-là et il sait pas ce que ça veut dire en fin de compte. Et donc c'est assez rigolo de pouvoir accompagner justement là, il y a un accompagnement à faire pour casser les cadenas qui leur permettent de pouvoir le faire.
On va bientôt conclure. Je voulais, avant ça, quelles sont un peu les actualités bande dessinée des éditions Six Pieds Sous Terre et Alter Comics, et peut-être que vous avez dans les catalogues des choses à conseiller pour nos auditeurs?
Ben, chez Six Pieds, il y a le dernier Edmond Baudouin qui vient de sortir, qui est le petit train de la Côte Bleue, j'en ai un petit peu parlé, c'est vraiment magnifique. Et puis il y a un bouquin, une bande dessinée de Thomas Gilbert qui s'appelle Sauvage, qui va aussi sortir. Chez Alter Comics, je vous en ai parlé, c'est Florence Estac. Donc pareil, ça va sortir plutôt au mois d'avril. Voilà. Donc c'est des titres qu'on retrouvera en librairie. Faut être toujours curieux dans la bande dessinée. Donc il y a des choses que des fois on n'aurait pas osé rentrer dedans et voilà. Et après on est bien surpris, comme on dit.
Et où est-ce qu'on peut... Alors je sais qu'il y a des sites web pour Alter Comics et Six Pieds Sous Terre. Est-ce qu'on peut retrouver aussi les différentes maisons sur les réseaux? Si oui, lesquelles?
Ben, que ce soit Six Pieds ou Alter Comics, ils sont sur les réseaux. Nous, pour Alter Comics, essentiellement sur Facebook. Six Pieds Sous Terre, je crois qu'il y a tout un tas de réseaux, mais il y a surtout aussi Facebook. Voilà, il y a du Instagram. Nous aussi, on est sur Instagram aussi, sur Alter. Donc voilà, je pense qu'on peut les retrouver sur les réseaux et voir effectivement s'il y a des nouveautés qui vont sortir très prochainement.
Cet entretien touche à sa fin. Grand remerciement à Jean-Christophe Lopez pour avoir répondu à l'invitation et avoir partagé avec nous son savoir et ses activités. Vous pourrez trouver les liens vers Alter Comics et Six Pieds Sous Terre dans l'article sur le sujet, ainsi qu'écouter ou réécouter cette émission en podcast sur notre site rphfm.org. En espérant que cet entretien vous aura donné envie de lire de bonnes BD. Sur ce, une excellente journée sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.